Chers amis mélomanes, fidèles d'Opéra Agora, bonsoir. Nous revoici à l'antenne. Nancy Zautier, metteur en ondes, et moi-même, Christian Segarichi, chef d'orchestre, directeur d'opéra, pour célébrer la gloire de Verdi. Nous allons ce soir ébaucher la fin du XIXe siècle avec une manière de composition toujours plus évolutive de la part de Verdi et des opéras plus lourds et plus symphoniques où l'orchestre occupe une part de plus en plus importante. Ce soir, nous commençons par évoquer Aïda, œuvre célèbre s'il en est, jouée régulièrement sur toutes les grandes scènes. En 1871, lors de l'ouverture du canal de Suez, le gouvernement égyptien commande à Verdi un nouvel opéra pour célébrer cet événement historique et pour fêter l'ouverture du grand théâtre du Caire. Comme vous le savez, Verdi n'était pas seulement le très célèbre compositeur d'opéra du XIXe siècle, mais aussi un homme politique important. Député de la première assemblée à la toute nouvelle Italie unifiée, et donc cette commande artistique était également une ouverture diplomatique entre les gouvernements italiens et égyptien. Verdi a donc situé l'action de son opéra en Égypte au moment de la guerre avec l'Éthiopie du temps des pharaons. Les protagonistes de cet opéra sont les suivants. Aïda, esclave éthiopienne, servante à la cour du pharaon, soprano. Amneris, fille du pharaon et rivale en amour de Aïda. Mezzo-soprano. Radamès, général égyptien, aimé par les deux rivales. Ténor. Ramphis, le grand prêtre, chef des religieux égyptiens. Basse. Le pharaon, père d'Amneris, basse. Amonasro, roi d'Éthiopie et père d'Aïda, baryton. Et enfin, la grande sacerdotesse, soprano. L'opéra de Verdi a été tiré d'une nouvelle de Camille du Locle et Mariette Bay, des dramaturges célèbres au XIXe, que Verdi connaissait en tant qu'habitué de la vie artistique à Paris. Et c'est Antonio Ghislanzoni qui en a fait le livret. Nous pouvons maintenant examiner l'acte 1, qui est une entrée en matière directe dans l'action et la psychologie des personnages. Pas d'ouverture, tout juste un court prélude d'ambiance. La guerre est déclarée entre l'Éthiopie et l'Égypte. Radamès espère obtenir le commandement suprême de l'armée et avoue son amour pour Aïda, l'Éthiopienne. Écoutons Franco Corelli, l'immense ténor, dans le célébrissime Céleste Aïda. Céleste Aïda.
Ecco i guerrieri o fossi, è il mio sogno, sì. si avverasse. Un esercito di frodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di me si torna. Pugnato per te ho vinto.
On ne l'a jamais remplacé dans ce genre de répertoire. Une voix si puissante, solaire. C'est terminé, je n'en connais pas actuellement qui puisse avoir ce timbre de voix magique. C'est bien dommage. Non seulement c'est un air très difficile pour ténor, mais surtout il est placé au tout début de l'opéra, sans que le ténor ait pu s'échauffer. C'est un vrai handicap. Et je me souviens de ce que m'avait confié Giuseppe Di Stefano, l'immense ténor italien, à savoir que c'était l'air qu'il redoutait le plus de tout le répertoire, justement à cause qu'il était situé en tout début de partition. Je me disais, me souviens, il disait « J'ai les genoux qui claque des dents. » C'est amusant. J'en profite pour saluer la mémoire de ce grand, grand ténor. C'est lui en particulier, Di Stefano, qui avait redonné à Maria Callas un peu de joie de vivre en l'accompagnant dans leur célèbre duo sous forme de récital. Alors qu'elle venait de rompre avec Onassis, qui lui avait préféré Jackie Kennedy. À ce propos, j'ouvre une parenthèse, il y a en ce moment sur les écrans un très bon film qui s'appelle tout simplement Maria et qui relate la fin de vie de Callas avec l'actrice Angelina Jolie. Alors, c'est à souligner pour une fois qu'un film parlant de grande musique n'est pas ridicule, c'est absolument à voir. Fermons la parenthèse. Puis rapidement, nous apprenons la rivalité entre Aïda et Amneris, dans un beau duo, et dans le temple antique, nous entendons les incantations de la grande sacerdotesse, accompagnées par les chœurs de coulisses. Pianissimo, voix d'outre-tombe, suintant au travers des murs mystérieux du temple. Ambiance religieuse et rituelle de la prière pour obtenir la victoire sur l'ennemi. Écoutons Natalia Polanskaya dans le rôle de la grande sacerdotesse. Et prêtons l'oreille pour deviner les mystérieuses voix d'outre-tombe du chœur antique. Écoutons Posente Phtah. Phtah, c'est le dieu égyptien vénéré. Écoutons donc le dieu tout-puissant, Posente Phtah. Ainsi se termine le premier acte, où nous notons la subtilité de Verdi aux prises avec le style moyen-oriental, qu'il maîtrise à merveille, toujours discret, suggérant le folklore sans en faire trop, toujours soucieux de ne pas tomber dans la caricature. On respire le parfum de ce Moyen-Orient tout en restant solidement ancré dans le style romantique italien du bel canto. Passons au deuxième acte. Celui-ci commence par un duo entre les deux rivales, Aïda et Amneris. Un duo soutenu par, là aussi, un chœur féminin. Il y a beaucoup de chœurs, du reste, dans Aïda. C'est l'occasion d'entendre la voix de mezzo-soprano d'Amneris. Écoutons cette version extraite d'un spectacle à l'Opéra de Paris. Écoutons un court extrait de ce début du premier acte, chœur avec ballet des jeunes esclaves. Vieni, amor mio, viens, mon amour, séduction érotique musicale, s'il en est.
Thank you.
Après ce duo, Verdi se lance dans une scène à grand spectacle, avec défilé militaire, double chœur, grand orchestre et en apothéose, les fameuses trompettes de Haïda, qui sont des instruments particuliers joués par des spécialistes. Ce sont des trompettes qui ne font que 4 sons et qui n'ont pas de piston et, comme les clairons, se jouent seulement avec le pincement des lèvres. C'est une grande trouvaille de Verdi, un moment musical que tout le monde connaît et qui n'a rien perdu de sa solennité, mais surtout de son originalité, car cette musique pompeuse ne ressemble en rien aux musiques militaires auxquelles nous sommes habitués. Cela fait partie de ces moments d'inspiration musicale devenus immortels, comme par exemple la marche turque de Mozart ou encore la lettre à Élise de Beethoven. Tout le monde connaît cela. Ça fait partie de la mémoire collective, à la fois des spécialistes, mais aussi du grand public. Écoutons ce grand défilé appelé le Triomphe par les chœurs et orchestres de la Scala de Milan sous la direction de mon ami Riccardo Chailly. Le Triomphe. Thank you. véritable cathédrale sonore où l'on peut admirer toute la science de la polyphonie verdienne. N'oublions pas que sa formation est celle d'un organiste et donc une confrontation permanente avec la musique polyphonique. Car l'orgue, évidemment, avec tous ses claviers et le pédalier en plus, est l'instrument le plus proche de l'orchestre. Lorsque l'on est un spécialiste, comme l'était Verdi, eh bien, on peut imaginer avec la différence de timbre de ces instruments, eh bien, l'on a un petit orchestre entre les mains et les pieds. Et l'on comprend qu'Aïda est un opéra qui a besoin de beaucoup d'espace scénique pour caser tous les choristes, danseurs, danseuses. Le grand ballet, le ballet des jeunes enfants, sans parler des innombrables figurants, les statues égyptiennes de grande ampleur. C'est pour cette raison qu'Aïda est si souvent représentée en plein air. Dans les arènes de Vérone ou bien le théâtre antique d'Orange, par exemple. On peut aussi bien entendu le jouer dans les opéras traditionnels. Il faut s'adapter. Et nous voici arrivés au troisième acte, que l'on appelle familièrement l'acte du Nil, car le décor se situe au bord du fleuve sacré. Aïda est songeuse. L'Égypte et Radamès ont vaincu l'armée éthiopienne, l'armée de son pays. Et Amonasro, son père, a été fait prisonnier. Toute à sa tristesse, elle se prend à rêver de son ancienne patrie, qu'elle ne reverra jamais. Et Verdi nous propose un de ses arias pour soprano qui apporte une poésie élégiaque quasi impressionniste avant l'heure, faisant opposition totale avec le final tonitruant du deuxième acte, plein de pompe et de majesté. Cet air comporte, à la fin, le fameux contre-ut que l'on veut entendre dans la nuance piano, tout en douceur, sans force, ce qui, bien entendu, est d'une très grande difficulté pour une note aussi aiguë, et est encore d'un grand danger pour la soprano. C'est le fameux contre-ut du Nil que tous les connaisseurs appréhendent avec angoisse. Mais que serait l'opéra si, au milieu des sensations de plaisir et de joie, il n'y avait ce frisson qu'apporte la difficulté suprême, donc le danger? Cela fait partie de toutes les émotions que procure cet art magnifique. Écoutons cet air par Katia Sakinova, qui me rappelle la grande Renata Scotto, soprano pour laquelle j'ai toujours eu une admiration particulière pour sa finesse d'interprétation. On pense à Joachim Dubélé et ses regrets du pays natal. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Bon, ici, ce n'est pas du tout la Loire, mais le Nil qui coule. Et on chante maintenant « Occhielli azzurri »,« aux cieux azur ». Écoutons ce morceau sublime.
Thank you.
personnellement, je suis particulièrement admiratif de la très belle phrase répétée par le hautbois solo. Toute parfumée de senteurs du Moyen-Orient, mais avec une légèreté, une subtilité empreinte de discrétion qui immédiatement nous transporte dans le rêve. On peut remarquer également combien l'art de Verdi est réfléchi, planifié quant aux subtilités des instruments solistes qui sont attachés à l'image d'un personnage principal et qui lui collent à la peau comme une carte d'identité musicale bien appropriée au caractère de chacun d'eux. Par exemple, c'était le violon solo, larmoyant, qui était l'identité musicale de la pauvre Traviata. Le cor anglais, sombre et rugueux, accompagnait Rigoletto, le bossu. Et c'est le hautbois, élégiaque, qui est le compagnon triste de Aïda. Après cette aria arrive Amonasro, le père d'Aïda, retenu, prisonnier en Égypte. Il vient réprimander sa fille. Amoureuse du général ennemi, Radamès. Il lui propose même de tendre un piège à l'armée du pharaon en pouvant espionner l'ennemi avec la complicité de sa fille, qui d'abord refuse, puis est contrainte d'accepter pour sauver le peuple éthiopien, son peuple. Cela lui coûtera la vie, ainsi qu'à Radamès à la fin de l'opéra, car, bien entendu, ils se feront prendre et juger. Verdi compose un grand duo pour baryton et soprano où se mêlent les regrets du pays natal et la haine de l'ennemi. C'est l'occasion de mettre en valeur ces barytons aigus que Verdi aime tant et que l'on nomme très justement des barytons Verdi, qui se reconnaissent à leur voix puissante, mais surtout à leur aigu facile, presque l'aigu d'un ténor. Écoutons ce beau duo. Rivedrai le foreste imbalsamate. Tu reverras nos forêts parfumées. Écoutons ce duo.
Rivedrai le foreste imbalsamate. Le fresche valli, i nostri templi d'or.
Rivedrai le foreste imbalsamate. Le fresche valli, i nostri templi d'or.
Sposa felice, lui che amasti tanto. Tribù di mensi potrai gioir.
Un giorno solo ti si tutti incanto, un'ora mia ti tolti e poi morir.
Pur rammenti che a noi legittimi te le case, i templi e l'ore profano. Trasse in ceppi le vergini rapite, madri, vecchi, fanciulli, trucidò.
Un pigmento quegli infausti giorni, rammi quei lutti che mio cuor soffrì.
Scoprirlo potria chi mai attendu. Eitama, ei conduce gli Egizi, intende.
Voici arrivé au quatrième acte, avec la scène célébrissime du jugement de Radamès, le chef de l'armée qui a trahi son pays pour l'amour de l'esclave Aïda. Et c'est Amnéris, la fille du pharaon, qui en est le personnage principal de ce moment musical. Elle aussi aime Radamès et voudrait le sauver. Mais les juges sont implacables. Verdi nous concocte une scène sombre et funèbre avec le grand prêtre Ranfis, Bas, accompagné des juges qui interrogent Radamès et le condamnent à être emmuré vivant avec Aïda dans leur tombeau. Verdi sait faire dans la pompe tragique et majestueuse, funèbre. C'est la sublime mezzo-soprano Obrazova, ma préférée que j'ai beaucoup dirigée dans les grandes scènes lyriques et qui, hélas, nous a quittés voici peu. Je lui adresse un salut admiratif et une bien triste pensée. Écoutons cette scène du jugement. Oime morir mi sento. Hélas, je me sens mourir.
Oime morir mi sento.
Ecco il futuro. Ehi,
ah,
le terrible verdict a sonné. Les deux amours impossibles, à la fois celui de Radamès pour Aïda et celui d'Amneris pour Radamès, ces impossibles amours ont été mis à jour. Radamès et Aïda sont condamnés à mort, emmurés vivants dans leur tombeau. Et Amneris, désespéré, s'en remet au dieu Phtah en implorant sa pitié. La descente au tombeau des deux amants constitue l'un des plus beaux duos ténor-soprano écrit par Verdi. Les deux voix s'élèvent dans l'aigu, d'abord en solo, puis ensuite elles s'entremêlent, soutenues par les litanies lointaines du chœur de coulisses et des prières d'Amneris. C'est vraiment sublime. Et Verdi nous conclut son opéra par un magnifique pianissimo. Alors que d'habitude, les fins d'opéra sont assez tonitruantes, eh bien là, tout cela se termine presque dans le silence. Je vous laisse découvrir ce moment musical exceptionnel. Et Nancy et moi-même vous saluons, toujours plus nombreux à nous écouter, et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Écoutons Placido Domingo et la divine Aprile Milo. O terra, addio. O terra, adieu. Et quant à nous, eh bien, bonsoir.
Tripudio dei sacerdoti,
il nostro inno di morte,
nelle mie forti braccia muovere ti potranno, oh fatal pietra.
Yeah.